Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. De toute façon, je ne me marierai jamais avec toi. Elle lui dit, bien, mon avocat sera prévenu. Déjà avec le scandale que tu as fait avec ton livre, tu es déjà jugé. Il la secoue. Il la fait tomber. Penché sur elle, il lui dit, jamais, jamais, je serai enchaîné par toi. Jamais. Elle lui dit, tu l'es déjà. Il me met la main sur la bouche. Petite garce, tais-toi. Il serre. Elle essaie de se dégager. Mais il serre très fort. Elle a le visage tout rouge. En une seconde, ses deux doigts se desserrent. Elle réussit. Elle lui mord la main. Aïe! Il se relève furieux. Salope! Il donne des coups de pied dans le ventre. Et sa fureur est tellement grande que d'un geste, il prend sur la table du salon un vase, il le jette à la figure. Ah! Elle ne bouge plus. Du sang coule sur sa tempe. Il se penche. Elle est inerte. Le visage rigide. Le corps sans vie. Il se redresse, range ses cheveux et sa tenue. Il a bien mérité, salope. Vieille truie. Regarde autour de lui. Une chambre d'hôtel. Il fait le geste de quitter la pièce et se souvient qu'il a donné son nom au concierge. Revient au milieu de la pièce. La salope, que faire? Elle m'a bien eu. Même morte, je suis enchaîné avec elle. Elle lui donne un coup de pied. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, ma vieille. Réfléchissons. Il fait 100 pas dans la pièce. Pour réfléchir. Un quart d'heure plus tard, il va à la fenêtre. La fenêtre donne côté cour. Il y a presque à la même hauteur de la fenêtre le toit de l'immeuble mitoyen. Il se penche, regarde. Il doit sauter 1,50 m à peu près pour être sur le toit. Toit d'ardoise. Il laisse ouvert la fenêtre. Regarde sa montre. Il est 11h30. plein jour. Prend le cordon du rideau. Il va vers le corps. Se penche et entoure la taille avec le cordon. Salope, il se relève, quitte sa veste et va la déposer sur une chaise. Puis retourne vers le corps. Il se penche pour mettre sur ses épaules. Puis va vers la fenêtre avec le corps. Se dépose sur le rebord de la fenêtre. En maintenant le corps par la corde, il le pousse dehors et le corps tombe sur le toit. Vite, il monte sur le rebord de la fenêtre pour aller vers le corps. Une fois sur le toit, il tire avec le bras de la femme jusqu'à une cheminée. Contourne la cheminée pour déposer le corps de l'autre côté pour qu'il ne puisse pas être vu. Plaque le corps contre la cheminée. L'attache avec la corde. Et entoure autour de la cheminée. Comme cela, elle ne risque pas de tomber car le toit est en pente. Ses efforts l'ont fait transpirer. Il tremble un peu mais n'a pas peur. Il retourne en faisant bien attention, car c'est en pente vers la fenêtre. Là, il fait des bonds pour attraper le rebord de la fenêtre. À la troisième tentative, il y est arrivé. Une fois que les deux mains sont sur le rebord et le maintiennent dans le vide d'un effort surhumain, il se rehausse et se laisse glisser dans la chambre. Il tombe à terre, se relève, ferme la fenêtre et les rideaux. Ouf ! Il se dit, si on retrouve le corps, ce sera peut-être dans 20 ans. Il sera tellement décomposé qu'on ne pourra pas savoir qui c'est. Il va dans la salle de bain. Dans la salle de bain, il se regarde dans la glace. Il est tout seul, noir de suie. Il quitte sa chemise et son pantalon, ouvre l'eau du lavabo, boit l'eau à même le robinet, mouille la serviette et se nettoie le visage, les bras et le torse. Il est tout rouge et essoufflé. La serviette est noire. Il la prend pour nettoyer ses chaussures. Puis, ouvre la fenêtre de la salle de bain et jette la serviette sale. Et sort de la salle de bain. Épuisé, va s'asseoir sur un fauteuil. Il a la tête vide, ferme les yeux pour dormir un peu, puis le noir. Le noir. Il se réveille, regarde sa montre, 15 heures, se lève. Va ouvrir l'armoire, trouve en bas de l'armoire un sac de voyage. Il met dedans le sac les vêtements qu'elle avait mis dans l'armoire, regarde la table de nuit, son livre, le tiroir, rien, la coiffeuse, il prend ses brosses, son parfum, la terre ses pantoufles, regarde bien de partout. Non, rien, tout a été pris. Il se déshabille complètement. Il se met à la coiffeuse. S'y blanchit le visage, se met du rouge à lèvres, se rougit les joues. Jusqu'à présent, ce n'est pas difficile. Mais le plus dur, c'est de se faire les yeux. Aïe, ça pique cette saleté. Il y est à peu près arrivé. Il se met les cheveux bien en arrière. Se blanchit les mains. Se met du rouge à ongles. Il a les mains fines. Puis, il se met les sous-vêtements. Une gaine qui devrait remonter les seins. Des bas. Il enfile la robe. Il a choisi une robe sans décolleté. Et pour embourrer les seins, il s'est mis du coton. Ses gestes sont habiles et sûrs. Ensuite, il se met des boucles d'oreilles. Aïe ! Un collier, un bracelet, des bagues. Elles font pacotille. Retourne à la coiffeuse. Avec un chapeau à voilette noire. Il se le positionne de telle façon à ce que l'on ne peut pas voir la longueur des cheveux et les yeux. Juste le bout du nez et les lèvres doivent être vus. Et maintenant les chaussures. Aïe ! Ils ne sont pas à la pointure. Ils sont en talon haut. Il faut essayer de marcher avec. Il fait quelques pas. Trébuche. Il y arrive petit à petit. Ça le grise de jouer à une autre personne. Ça l'excite. Il en oublie même le pourquoi. Il enfile le manteau et s'apprête à partir. Parce que tout à coup, il se dit, il faut payer l'hôtel et je dois tout prendre pour y mettre dans le sac. Vite, vite! Il met dans le sac toutes les affaires de la femme et ses habits. Maintenant, comment payer ? Il regarde dans le sac à main. Ça n'a pas d'argent. Non, rien. Zut ! Je vais lui dire que c'est M. Beaumandin qui va payer la note. Il va vouloir des garanties. Vite ! Il ouvre le sac de voyage. Il va chercher dans sa veste une carte de visite. Ouf, il en a trouvé une, il la prend. Une fois qu'il a refermé le sac de voyage, il va sur la table et écrit sur la carte à l'envers comme quoi le séjour est aux frais de M. Beaumandin. Puis, il met le manteau rouge, prend ses sacs, le sac de voyage et le sac à main, et sort de la chambre. Au rez-de-chaussée, il va vers le concierge, lui dit, « Je suis Denis Solmet. Malheureusement, je suis obligé, c'est de vous quitter de suite à cause d'une histoire de famille. » Le concierge la regarde bien et lui dit, « Nous allons vous préparer la note, madame. » Elle lui répond, « Comme je suis très pressé, vous donnez la note à monsieur Beaumandin. » « Ah, mais madame, c'est impossible. J'ai un mot de lui. » Il lui tend la carte de visite. Le concierge la prend, la lit. « Vous permettez, madame ?» Je vais voir. Il quitte la banque et va dans un bureau, au bureau du directeur. Entrez. Il explique au directeur la chose. Le directeur lit la carte de visite et lui dit « Je connais M. Beaumandin. L'on peut lui faire confiance. Envoyez-lui la note de suite. Bien, monsieur. » Il est retourné vers la dame et lui dit « Madame, tout est en ordre. Vous pouvez partir tranquille. » Marche pendant un moment, prends un fiacre pour le mener à la gare. Prends un billet pour Monte-Carlo. Va aux toilettes femmes, s'enferme, se déshabille, se démaquille, se remet en vêtements et sort, sac de voyage à la main. Va sur le quai. Lorsque le train arrive, entre dans un compartiment vide. Mets le sac dans le porte-bagages. Sors du train et de la gare. Comme cela, on va croire qu'elle a quitté Lyon. Le soir, le père trouve la note d'hôtel. Demande des comptes à son fils, qui lui dit « Je lui ai persuadé de partir. Malheureusement, je ne pouvais pas faire autrement que de payer son séjour à l'hôtel. Elle n'avait pas d'argent. Et pour éviter un scandale qui pourrait nous nuire, j'ai payé. De toute façon, nous en tirons un bon compte, et ne nous nuira plus. Comment as-tu fait ?
Je lui ai démontré le ridicule de son mariage. Le père lui dit :
C'est bien.
Le temps passe. On n'entend plus parler de Denise. Charles-André n'a pas de remords de ce qu'il a fait. C'était de la légitime défense, d'après lui. Et puis, le plus dur, c'est de tuer. Une fois, après, l'on prend l'habitude. Ça peut même devenir passionnant de trouver la solution pour ne pas se faire prendre. Que faire du cadavre ? Vous direz, le remords, la morale. On peut avoir du remords si on connaît bien la personne. Mais si on avait de la sympathie pour elle, de toute façon, une fois que la chose est faite, on ne peut plus revenir en arrière. Alors il faut bien assumer son geste, chercher à ne pas se faire prendre. Et pour ce qui est de la moralité, c'est une histoire d'éducation, n'est-ce pas ? Et d'instruction. Alors, l'éducation, ça s'oublie quand on le veut bien.
Par contre, il y a une chose qui ennuie Charles-André, c'est son service militaire. Il n'aimerait pas y aller. Il le dit à son père dans son bureau.
Voilà, père, pourriez-vous faire quelque chose pour que je ne puisse pas faire mon armée ?
Le père lui dit : Je ne suis pas spécialement un militariste, mais puisque tout le monde fait son service militaire, je ne vois pas pourquoi tu ne le ferais pas. As-tu une raison pour ne pas le faire ?
Il hausse les épaules et lui répond « Tu me vois, moi, dans une caserne, au milieu de tous ces gens, pour la plupart des gens du peuple, perdu, perdre mon temps à des exercices idiots et manger de la popote ?»
Le père lui répond « Je comprends, mais la France a besoin de soldats.
Nous avons une revanche à faire. L'Alsace et la Lorraine à reprendre. Chaque Français se doit de se battre pour ces deux provinces prises par l'ennemi.
Je sais bien, père, mais vous me voyez, moi, avec un fusil,
comme tout le monde.
Alors, vous ne voulez pas m'aider à ce que je ne fasse pas mon armée?
Tu dois. Tu te dois de servir la France.
Je peux la servir autrement, en écrivant, en diffusant la culture française au monde.
Avec tes histoires immorales, éditées en cachette et vendues sous le manteau.
Pour me racheter, j'ai créé une histoire d'un saint, Saint Vincent. Et puis, si l'on veut, je peux écrire une histoire patriote. Alors, vous voyez, je n'ai pas besoin de l'armée pour rendre service à mon pays. J'ai du travail stable, et en plus j'écris. Si je fais mon armée, je perds mon travail. Le père hausse ses épaules et lui dit.
Pour le travail, pour ce que tu fais, ce ne sera pas une grande perte. Et puis tu pourrais t'engager.
Non, merci. Parce que faire mon armée dans une colonie, pour surveiller les colons et taper sur les indigènes,
tu pourrais être envoyé dans un département,
comme ceux de l'Algérie ou de la Corse, pour être reçu à coups de pierre, si ce n'est pas de balles.
Non, merci. Celui qui a eu l'idée de faire de l'Algérie un département est un imbécile et un criminel.
Car un jour ou l'autre, elle va demander son indépendance. Et comme légalement c'est un département, on ne pourra pas le lui donner. Car c'est comme si l'on donnait son indépendance au département du Rhône.
Et comme les Algériens verront qu'on ne leur donne pas, ils vont se rebeller. Cela risquera de créer une guerre civile très meurtrière.
Puis l'armée s'est battue contre les Parisiens. Je refuse de me battre contre des civils, qu'ils soient Algériens ou autres.
Le père lui dit, « Mais qu'est-ce que tu racontes là? L'Algérie va bien. L'on ne cherche pas à se battre avec elle. La preuve, on l'a enlevée du protectorat de l'armée pour la mettre dans le civil et en département. L'on met ses habitants dans le même pied d'égalité que les Français de métropole. C'est le plus beau cadeau que l'on peut faire. Nos enfants feront en quelque sorte la paix de la République française. »
Jean Landré répond. Cette paix ressemble beaucoup à la paix romaine, ce qui voulait dire que les Romains détruisaient l'ancienne civilisation, géraient les affaires et les lois et prenaient des esclaves. Le père est caressé et lui dit.
Tu t'égares, je me moque des Romains et de nos colonies. Tu es venu ici pour parler de ton armée.
Oui, père. Le père réfléchit et lui dit.
Je vois ce que je pourrais faire. Écoute, si tu ne la fais pas, il faut me promettre des sérieux. Je ne veux plus. Plus, tu entends, de ces histoires que j'ai eues à m'occuper ces derniers temps. Si tu as une maîtresse, fais en sorte à ce que la famille ne le sache pas. Si tu écris un livre scandaleux, fais-le sous un autre nom. Et je veux que tu travailles sérieusement, que tu aies une profession digne de ce nom.
Bien, père.
Bon. Je vais travailler. Tu vas travailler comme régisseur. Tu t'occuperas de faire rentrer les loyers. Tu peux commencer le mois prochain si tu veux.
Bien, père.
Bon, eh bien, je vais aller à Paris la semaine prochaine. J'irai au ministère de la guerre. Ils ne peuvent rien me refuser. C'est moi qui leur ai fourni les terrains pour les casernes de Lyon.
Merci, père.
Le père va au ministère de la guerre voir le ministre, qui est un homme de taille moyenne, cheveux dégarnis sur le devant et moustache noire. Il lui parle de son fils et lui dit
« Vous pouvez bien me rendre ce service. Vous avez eu les terrains grâce à moi. »
Le ministre lui dit
« Les terrains, bien, merci. » Cela nous a permis d'encercler la ville pour maintenir les meneurs de troubles. Votre ville, avec ses canuts, ses rouges, la police ne suffit pas
pour maintenir l'ordre. Avec les émeutes qu'ils font, la République ne peut tolérer ce genre de troubles. Nous défendons la justice, l'ordre. Notre devoir est de les maintenir et de maintenir le peuple. Nous voulons qu'ils travaillent, respectent les institutions, les mœurs républicaines et les notables. Nous leur donnons l'enseignement gratuit et laïque pour qu'ils puissent devenir de bons citoyens et être une bonne chair à canon. Nous avons une revanche avec l'Allemagne et à reprendre l'Alsace et la Lorraine. Le père lui dit, c'est pour cela que vous avez envoyé à l'école des petits Français pour en faire de la bonne chair à canon, de bons petits soldats quand ils seront adultes et pour les éduquer à la République en dénigrant l'ancien régime et la religion. En gros, vos écoles sont des lieux d'embrigadement des enfants pour la République. Le ministre lui dit, oui mon cher, et j'en suis fier, car avec ce système, il n'y aura plus de retour en arrière. La République sera sur de bonnes assises, car dès l'âge tendre, le citoyen apprendra les bienfaits de la République et les horreurs des autres régimes. Mais il aura aussi appris la fierté d'être français. Et le jour où le gouvernement décidera de les envoyer à la guerre, ils iront défendre les droits de leur pays fièrement. Voilà la politique de la République. C'est de préparer la guerre avec l'Allemagne. Et nous n'avons que cette politique-là. Le père lui dit, très louable, monsieur le ministre. Pour le peuple, voici une belle croisade que nous leur préparons. Mais il existe des genres, très peu de gens qui sont des plus utiles à la nation dans le civil qu'à l'armée et dont les parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour aider leur pays. Je crois faire partie de ces gens-là. Et ne pourriez-vous pas, si c'est possible, exempter mon fils de l'armée? C'est un brave garçon. Il écrit quelques romans qui ont déjà été parus et qui ont eu du succès. Le ministre lui dit, comme ce roman qui a fait scandale dans la bourgeoisie lyonnaise. Parce qu'il était anticlérical, monsieur le ministre. Ce qui arrange vos affaires, puisque la République l'est aussi. Le ministre lui dit, et immoral. Le père lui dit, à cause de la religion. Le personnage l'est à cause de la religion, pas à cause de la République. Bien, passons. Vous voulez que votre fils soit exempté? Oui, monsieur le ministre, car il déteste les armes et a peur de tirer. Il est très sensible. Et que fait-il en ce moment? Il écrit une vie de Saint-Vincent. Après avoir écrit un livre anticlérical, c'est pour se faire pardonner. Vous savez, la province, Lyon, les prêtres sont encore, ont encore beaucoup d'influence. Et si je me les étais mis à dos, adieu mes affaires, les trois quarts des terrains à Lyon leur appartiennent. Et même le terrain que je vous ai vendu, ils étaient à eux. Je n'aurais pas pu les vendre si mon fils avait été excommunié. Bon, très bien. Il faut savoir pactiser avec l'ennemi, qui d'ailleurs a le même ennemi que nous, le peuple. Un ennemi commun, ça aide pour les ententes cordiales. Bon, vous pouvez partir tranquille. Votre fils ne fera pas son armée. Un de plus, un de moins, ça ne se verra pas.
Charles André a fini son Saint-Vincent. En l'écrivant, il s'est mis dans la peau de ce saint et au fur et à mesure qu'il se purifiait, il a aimé cet homme et ce qu'il défendait. Ce livre lui a apporté un plaisir extraordinaire. Il revivait l'époque, la fronde, les pauvres, les enfants abandonnés, la misère noire, la cour, et ce petit homme têtu qui veut aider et rendre sa dignité à ces gens qui n'existent pas, n'hésite pas à donner des coups de pied aux convenances du temps. Homme moderne pour son époque, à l'esprit très ouvert, et son idée de faire aider les pauvres par les pauvres. Oui, Charles-André a eu beaucoup de joie à écrire ce livre et son esprit s'en est purifié. Les mauvaises langues vont me dire que pendant la période qu'il écrivait, cela ne l'a pas empêché de tuer Denise en l'injuriant et d'en avoir aucun remords. Je vous dirai oui, c'est vrai, puisque je vous l'ai dit, mais il l'a tué pas en même temps qu'il écrivait. Et c'est le principal. Lorsqu'il l'a tué, il n'était pas dans le même état d'esprit, étant donné qu'il n'écrivait pas, son esprit était moins en communication avec son livre. Et puis il a tué. Mais ce n'est pas parce qu'il a tué qu'il devrait tout le temps y penser. Ce qui était fait, on ne peut pas revenir en arrière. Alors à quoi bon y penser constamment? Tandis que son livre, il ne l'avait pas fini, donc parfait, donc il fallait qu'il y pense. Et puis, pour la morale chrétienne, c'est une bonne chose, car il a purifié son âme de criminel. C'est comme s'il avait fait une punition contre son péché, et qui fait pénitence et sûrement pardonné. Donc, avec ce livre, il est redevenu pur et absous de tout péché et surtout de son crime. Crime accidentel, car si cette vieille truie n'était pas venue le faire chanter au mariage, il ne l'aurait pas tué. En fait, il a fait justice, car il l'a empêché qu'elle fasse un mariage blasphématoire ou chantage pour avoir la fortune de la famille. Grâce à lui, elle est au paradis, tandis que s'il ne l'avait pas tué, elle aurait été à sa mort en enfer. Donc Charles-André a sauvé une âme du péché et l'a envoyée directement au paradis. Si on regarde bien ce crime, sans qu'il ne sache, fait partie avec le livre de sa purification, comme l'on dit. Et puis, de toute façon, on ne sait pas ce que pense Dieu. Ses pensées sont impénétrables. Donc, notre Charles-André, après son chemin de croix, se purifie et devient un saint homme. Qu'il n'a plus besoin de plum, ni de sa sœur pour la tripoter. En tout cas, pour le moment. Une fois qu'il ait fini son livre, il le donne à lire à sa sœur et lui dit « Surtout ne le fais pas lire à Jules, je te le promets. » Elle lit le livre dans sa chambre. Que c'est une âme qui ne s'est pas encore purifiée, elle le trouve ennuyeux. La vie d'un homme généreux, noble, ne l'intéresse pas. Mon frère est devenu ennuyeux. Elle va le lui rendre dans sa chambre. Frappe à sa porte. Entrez. Il est assis à son bureau. Elle va vers lui, lui tend le livre. « Tiens, comment le trouves-tu ?» Elle va s'asseoir sur une chaise à côté de lui. « Je ne dis pas que ce soit pas bien, mais ça ne m'a pas intéressé. Tu sais, tu ne vas pas devenir ennuyeux comme ces bigots et moralistes ?» Il lui dit. « Je ne suis pas ennuyeux. Tu as vu tout ce qu'il a fait, cet homme? Je me sens tout petit devant lui. J'aimerais avoir sa force. » Elle lui dit. « Faut faire la charité.
je ne te vois pas en petit curé.
Surtout si moi je partage ta vie.
J'aimerais mieux que tu restes comme tu étais.
Il lui dit, j'étais rien, je vivais pour moi. Nous vivions cachés à cause de notre péché. La lumière nous était interdite.
J'en ai honte de t'avoir fait vivre comme ça.
Elle se lève furieuse et lui dit, eh bien moi non, je ne regrette rien. Je n'aime pas.
Je t'aime pas quand tu parles comme un saint. C'est bête et stupide.
Ce livre ne t'a pas plu alors?
Je ne dis pas ça, mais c'est le sujet qui ne m'a pas plu.
Tu aurais pu continuer dans la lignée de l'autre?
Il lui dit. J'aurais tourné en rond dans le sordide.
Et puis toi, qu'est-ce que tu fais?
Moi? Je m'ennuie. J'ai hâte de mener une autre vie. Je rêve d'un voyage à travers l'Europe.
Mais il faut que je trouve un compagnon de voyage.
Il lui dit, moi je ne peux plus, je suis obligé de travailler sérieusement pour remercier mon père de m'avoir épargné l'armée.
Elle lui dit, c'est dommage, la vie à la caserne aurait pu t'apporter quelque chose.
La vie en communauté a ses charmes aussi.
Il lui dit, pas pour moi, je préfère rester civil et aider mon père.
Et tes romans?
Père dit que je pourrais continuer. Elle lui dit,
dans tes bons dieuseries?
Il lui répond,
sûrement pas. Mon prochain roman sera l'histoire d'un secret.
Oh, raconte.
Eh bien, voilà.
Un jeune homme rencontre un romancier qui lui dit que dans son œuvre se trouve un secret littéraire, que personne ne l'a vu et que celui qui le verra aura découvert la chose la plus importante qui soit. L'écrivain n'en dit pas plus. Le jeune homme lit tous les livres de l'écrivain. Il y cherche un point commun ou quelque chose. Ne trouve rien. Cela l'agace. Et relit plusieurs fois l'œuvre. Rien, rien. À force de chercher, il s'énerve. Les livres de cet auteur qu'il aimait, il n'en trouve maintenant aucun plaisir. Ils deviennent fades, sans intérêt. Il parle de cette histoire à un de ses amis, qui lui dit que de son côté, il va chercher. Plusieurs mois plus tard, son ami lui écrit comme quoi il est sûr d'avoir trouvé la chose et que c'est une chose merveilleuse. Mais pour en avoir le cornet, il décide d'aller voir l'écrivain et de lui parler de sa découverte. Le jeune homme est fou de curiosité. Il attend avec impatience la réponse. Elle vient. Il écrit que l'écrivain lui avait dit qu'il avait trouvé. Le jeune homme attend le retour de son ami pour lui demander ce qu'il a trouvé. L'ami a un contretemps. Il épouse une jeune fille et malheureusement, quelques mois après le mariage, il meurt d'un accident. Le jeune homme est effondré, lui qui s'attendait tant à apprendre le secret de l'écrivain. Il se dit que c'est perdu. Le temps passe, et un jour il fait la connaissance de la veuve. Il sympathise, il se dit que peut-être que son mari lui a dit le secret. Comme il la trouve charmante, il sympathise et cherche à la courtiser. Elle se laisse faire, n'ose pas lui parler, lui poser la question. Malheureusement, la jeune fille est courtisée par un autre jeune homme. Et la jeune fille apprend au jeune homme qu'elle se marie avec l'autre. Le jeune homme est effondré. Il se dit que le secret, c'est l'autre qui va l'avoir. Il se marie. Le mari de la jeune fille publie un livre sur l'écrivain, mais il n'y a rien d'intéressant. Le temps passe. Un jour, le couple a un accident. La femme meurt. Le jeune homme sympathise avec le veuf. Dans la conversation, il lui demande si sa femme ne lui a pas parlé de son fameux secret littéraire. Il lui répond que non. Le jeune homme se dit que la jeune femme ne l'a pas trouvé suffisamment intelligent pour lui dévoiler ce secret. L'écrivain meurt lui aussi. Le secret est définitivement perdu. Le jeune homme se dit que cette quête qui lui a pris des années n'a servi qu'à lui faire dégoûter les écrits de son auteur favori. Voilà. Apolline lui demande « Et quel est le secret des livres ?» Il lui répond « Je ne sais pas. »« Alors tu vas écrire tout ça sans savoir le secret ?» Il lui dit « Oui, qu'importe le secret, ce qui compte, c'est la recherche de ce secret et jusqu'où il a mené. La subtilité du livre, ce n'est pas le secret, mais la façon dont on décrit le secret. C'est de rendre palpitante une histoire où il ne se passe rien, où l'on aboutit à du vide. Mais ne t'en fais pas, je vais tout faire pour que les gens soient intrigués et aient envie de continuer à lire. » Elle lui dit « Mais à la fin, ils vont être déçus. » Il lui répond « Ils ne s'en rendront pas compte, car si je réussis le livre, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. » Ils doivent avoir la tristesse que le héros n'est pas le secret, mais c'est tout. Il faut pour cela que le lecteur soit passionné par le secret, mais en même temps sympathise avec le héros et soit triste pour lui et non avec lui. Elle lui dit, ça ne va pas être très facile. Non, mais je vais prendre le temps. Et puis, ce ne sera pas un gros livre, peut-être une centaine de pages. Car autrement, si c'est trop long, le lecteur va se lasser de ce secret à chercher. Mais avant, il faut que je trouve à faire éditer ce Saint-Vincent. Elle lui dit, les gens vont être déçus après ce que tu as écrit. Ils vont croire que tu t'es vendu. Il lui dit, ils ne le croiront pas longtemps. Car je vais leur montrer avec mon livre suivant que je suis un écrivain libre et veux traiter de tout, des saints comme des criminels. Elle l'embrasse et se lève. Je dois sortir. Et sort de la pièce. Quelques jours plus tard, Charles André demande un entretien à son éminence le primat des Gaules. Le primat lui envoie un mot pour l'inviter. Charles André va dans le bureau de son éminence, un manuscrit à la main. Entrez, mon ami, et asseyez-vous. Charles André va s'asseoir. Le primat lui demande « Vous avez quelque chose à me dire, mon fils ?»«
Mon éminence, je suis venu vous présenter mon manuscrit pour que vous puissiez le lire et que je puisse vous le dédier. »
Il lui tend le manuscrit. Le primat lit le titre. « La vie de Saint-Vincent, le bon monsieur Vincent. »«
Bon, très bien. Je vois que vous avez voulu vous faire pardonner cette chose que vous avez écrite. Je savais que la brebis égarée allait me revenir. Et vous revenez avec Saint-Vincent, le saint des pauvres, celui qui a soigné les plaies de la misère. Pourquoi avez-vous choisi ce saint ?
Parce que je l'aime et puis je sens en lui une force extraordinaire.
Oui, vous avez raison. Il a de la force, c'est ce saint. Vous allez le faire éditer prochainement?
Malheureusement, je n'ai pas d'éditeur.
Comment cela? Et celui qui vous a édité pour l'autre?
Ça ne l'intéresse pas.
Oui, je vois. Il préfère les œuvres impies. Laissez-le-moi. Je vais le faire éditer, moi. Je connais quelqu'un.
Je suis venu, mon père. Le livre vous est dédié. Et je le dis sur la préface. Je l'écris en disant que j'ai eu cette idée, l'idée de ce livre, en pensant à vous, à votre bonté, charité.
Merci, merci. Je suis très touché, mais je n'aurais jamais présenté ce livre à mes amis. Ils vont croire que je m'enorgueillis de ma charité.
Pourtant, mon éminence, ce que vous avez fait durant les émeutes des Canuts, tout le monde l'a vu. Le primat est tout rouge et dit « Je n'ai fait que mon devoir. Il fallait bien arrêter la racaille pour que les braves gens puissent être en sécurité. Vous avez sauvé la bourgeoisie lyonnaise. »
N'exagérons pas. J'ai simplement dit à l'armée qu'ils pouvaient tirer, que c'était leur devoir. Mais tout ça, c'est fini. Et c'est très bien fini par l'ordre, car l'ordre règne à Lyon, n'est-ce pas? Et sans l'ordre, on ne peut rien faire. Saint-Vincent aussi aimait l'ordre.
Nous allons boire un petit quelque chose avant que vous partiez.
Ne craignez rien. Ce n'est pas de cet infect Beaujolais, mais un bon Bourgogne.
Il se lève pour aller à sa bibliothèque. L'ouvre. Tire quelques livres, peut prendre une bouteille et deux verres.
C'est ma coffre personnelle.
Et dépose tout sur le bureau.
Je ne peux pas faire autrement. C'est pas moi qui m'occupe de la cave. Et à part le vin de messe, le reste est de l'infect. Ce n'est que de la piquette du coin que l'on force à boire.
Ils boivent. Le primat continue.
C'est comme pour les menus, des repas. Il n'y a rien à dire. C'est le cuisinier qui décide de tout. C'est pas drôle d'être éminence.
Vous avez aussi des joies ? Comme celle d'aider des hommes à prendre le bon chemin.
Oh, oui, oui, oui.
On a frappé à la porte.
Entrez.
Un petit orbé, tout maigre, cheveux blancs, dit.
Mon éminence, il est bientôt l'heure de partir.
Oui, 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 merci.
Et le petit orbé ferme la porte.
L'éminence se lève et dit « Je veux m'en envrer, mais je dois me préparer, car je suis invité à un déjeuner. »
Charles-André se lève, se penche et lui dit
« Au revoir, mon éminence.
Au revoir, mon enfant, et merci pour le livre. »
Et Charles-André quitte la pièce.
Quinze jours plus tard, il reçoit une lettre du primat des Gaules lui disant que son livre va être édité très prochainement et que pour cela, il ne manque que sa signature pour le contrat. Il doit se rendre aux éditions de l'Eucharistie.
Un après-midi que Charles-André est dans sa chambre à écrire, on a frappé à la porte.
Entrez.
C'est la bonne. Monsieur, il y a des gens de la police qui désirent vous voir.
Ah, bien. Menez-les dans le petit salon.
Bien, monsieur.
Et la bonne ferme la porte.
Charles-André est inquiet. Ils viennent sûrement pour Denise, ou Paul, ou Adrienne, ou Mathilde, ou pour tous en même temps.
Je sais bien, c'est que la guillotine est la fureur de l'ennemi. Le vent est tiré, il faut le boire.
Il se lève pour sortir de sa chambre.
Au salon.
Il y a deux hommes en civil. Ils sont grands, minces, fines moustaches et cheveux noirs, dans les 45 ans, habillés d'une redingote marine. Jean-André leur demande : Vous désirez, messieurs ? L'un des hommes lui répond :
Nous sommes de la police, inspecteur Legrand et mon confrère Dupuis. Pardonnez-nous de vous importuner. Mais nous avons quelques questions à vous poser.
Je vous écoute, messieurs.
Nous faisons une enquête au sujet d'une famille Sommet. Madame Demi-Sommet est partie de Monte-Carlo il y a de cela un mois pour venir vous voir et la famille n'a plus de nouvelles de leur mère. Nous avons fait une enquête, la personne est bien arrivée au Savoie, y a séjourné deux jours, puis est partie. Avez-vous eu des nouvelles de cette personne ?
Non, pas depuis la dernière fois.
L'inspecteur lui dit, « La dernière fois, c'était le matin où vous êtes venu la voir à l'hôtel. »«
Oui, monsieur. »«
Vous a-t-elle dit quelque chose qui pourrait nous mettre sur la voie ?»« Pour savoir où elle est. »«
Non, elle m'a dit seulement qu'elle quittait l'hôtel pour aller à Monte Carlo. »«
Elle était venue vous voir pourquoi ?»«
Oh, une histoire assez compliquée. » J'ai connu cette personne à Monte-Carlo où j'ai séjourné. Elle s'est mise dans la tête de se faire épouser. Je ne voulais pas, bien entendu. Elle avait l'âge de ma mère et ses enfants étaient presque de mon âge. Mais elle s'est obstinée. J'ai quitté Monte-Carlo. Elle est venue en France pour m'obliger à m'épouser. Je lui ai fait comprendre le ridicule de l'affaire et nous nous sommes quittés. Voilà.
Rien de plus ?
Non.
Bien, bien. De toute façon, cette personne est bien partie de l'hôtel et a bien pris le train. Le concierge de l'hôtel, un cocher, l'ont vu. J'aurais été obligé de faire enquêter sur tout le trajet du train. Elle a dû descendre à une gare. Vous viendrez signer votre déposition de ce que vous nous avez dit, disons demain matin. Cela vous va ?
Oui, votre inspecteur lui dit.
Nous avons fait une enquête discrète sur vous.
La disparue avait fait appel à un avocat pour vous demander des dédommagements parce que vous lui aviez demandé en mariage.
C'est faux. C'était elle qui avait dit à tout le monde que nous étions fiancés, d'ailleurs sans prévenir.
Bon. Mais autour de vous, il y a de drôles de disparitions. Ou disons plutôt de morts subites. Votre séjour à Paris.
J'y suis pour rien. Et puis ces gens se droguaient. Et fréquentait des personnes plus ou moins louches.
L'inspecteur lui dit,
« Ne nous énervons pas, monsieur. Nous n'avons aucune preuve. Et puis, notre travail, c'est la disparition de cette Denise Sommet. Alors, à demain pour la déposition. »
Et il le quitte. Après la visite des inspecteurs, il va frapper à la chambre de sa sœur.
Entrez.
Elle est assise à sa table à écrire.
Ah, c'est toi ?
Oui, il va s'asseoir en face d'elle.
J'ai reçu la visite de deux inspecteurs et lui raconte tout. Elle lui dit,
Il y a eu un mort de trop.
Parce que tu l'as tué, n'est-ce pas ?
Il ose les épaules et lui dit :
Oui, que voulais-tu que je fasse ?
Elle aurait détruit ma vie.
Je ne regrette rien.
Et puis j'ai tout fait pour qu'on ne m'accuse pas de ce crime.
Ils ont parlé aussi des morts de Paris.
Cela le semble beaucoup.
Elle lui dit :
Pour ça, oui, ça fait beaucoup.
S'il prouve que c'est nous, nous sommes perdus.
Il lui demande : Que devons-nous faire ?
Elle lui dit :
Nous tuer pour éviter que l'on vienne peut-être nous chercher pour nous juger et nous guillotiner.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junet Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 25e partie. Production, mise en scène Junet Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
La CVRP, Cinéma Vidéo Radio Production, vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio.